R22, tout monde, antenne, radio, bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, création, politique.
Pour cette première soirée de lecture du Festival Poétesse, nous avons voulu rendre compte d'une génération de femmes poètes qui se connaissent, ont construit leurs œuvres parallèlement et dont les chemins poétiques, s'ils diffèrent, se sont croisés à divers moments de leur parcours respectif. Elles se sont lues, elles ont échangé, elles ont parfois fait des livres ensemble, elles se sont traduites les unes les autres. Elles ont tissé ensemble, consciemment ou non, une toile poétique puissante et vibratoire qui a ouvert et continue d'ouvrir bien des portes aux générations suivantes qui ne cessent de s'y référer. Bien des jeunes poètes d'aujourd'hui ont tiré ces fils-là et s'inscrivent dans cet héritage comme tant de filles de cette lignée discrète et puissante. Mes théories sont des filles entrelacées, écrit Liliane Giraudon dans La Poétesse en 2009. Ce soir, nous entendrons donc des lectures de quatre femmes poètes, Suzanne Doppelt, Cole Swenson, Anne Portugal, accompagnée par Vincent Broca, et Liliane Giraudon. Nous aurions beaucoup aimé que cette soirée soit un moment de rencontre et de partage, de poésie et de chaleur humaine, que nous aurions pu prolonger autour d'un verre et de discussions. Malgré la situation sanitaire, nous avons fait tout notre possible pour que leur voix porte néanmoins jusqu'à vous. Nous avons finalement choisi la forme radiophonique pour reposer nos yeux après cette première journée de colloque devant des écrans et pour faire résonner leurs textes de manière plus intime, malgré la distance. Elles ont parfois associé leur lecture de quelques images qui sont disponibles sur le site du Festival Poétesse et sur celui de la belle radio R22, qui nous fait l'honneur de retranscrire le festival en direct. Vous entendrez ce soir des histoires de danse populaire, d'araignées à la morsure mortelle, de films d'Agnès Varda, des histoires de flirt et de syntaxe, de bidets poétiques et de patriarcat, des histoires de glaneuses et de reflets de lumière, quelque part, sur un phare en Algérie. Alors, laissez-vous porter.
Na minha pele e minha cor, no meu sorriso nasce flor, minha alma está no teu tambor, ao longe vibra o teu fervor, batuque brasileiro, na roda de pandeiro, bate meu coração, no ritmo da canção, batuque brasileiro, na roda de pandeiro, bate meu coração, no ritmo da canção, esconde, 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 esconde.
Suzanne Doppelt est née en 1956. Elle est photographe, éditrice et écrivaine. Elle est également revuiste. Elle a fondé et dirigé la revue Détail avec Pierre Alféri et elle est membre de la rédaction de la revue Vacarme. Elle a publié une vingtaine de livres depuis 1994, dont la plupart sont parus aux éditions POL. Avec Anne Portugal, elle a conçu, dans la reproduction en deux parties égales des plantes et des animaux. Elle a également travaillé avec Cole Swenson lors d'une résidence à la Villa Le Nôtre en 2019. Elle a commencé par la photographie, avant d'en venir à la poésie. Ses livres en portent la trace, qui comporte toujours des visuels qui viennent ponctuer le texte et ne cessent d'interroger nos perceptions. Elle a exposé ses photographies au Centre Pompidou, à NYU, au Musée du Louvre, à Brown University, notamment. Ses recueils naissent souvent de la contemplation d'une œuvre d'art visuelle. C'est le cas dans « Rien n'a cette magie », qui développe une méditation poétique autour du tableau de Chardin « Les bulles de savon », ou encore dans « La plus grande aberration », qui s'inspire du tableau de Jacopo de Barbari. Son dernier recueil, « Metadonna », paru en 2020, s'inspire quant à lui d'un film. Le court-métrage documentaire en noir et blanc de Gianfranco Mingozzi, intitulé « La Tarenta ». Il est question d'une danse très ancienne, du sud de l'Italie, la tarentelle, dont la légende dit qu'elle qu'elle était provoquée par la morsure mortelle d'une araignée. Le titre du recueil de Suzanne Doppelt renvoie à cette légende. Métadona, moitié femme, moitié araignée.
La morsure de la tarentule fixe l'homme dans son propos, c'est-à-dire dans la disposition d'esprit où il se trouvait quand il a été mordu, écrit Léonard de Vinci, et ce passé, souvent mauvais, ne cesse de revenir. Pour arrêter la transpériodique due à son venin, inoffensif pourtant, il faut la musique, la danse et des couleurs. C'est ce que montre le petit film de Gianfranco Mingozzi, Tarantula, inspiré par Ernesto De Martino, tourné en 1961 dans le Salento, une région très blanche et poussiéreuse du sud de l'Italie. Sur cette terre du remords, il est question d'ennui, comme de fatigue, d'une confusion des genres et du sort jeté et à moitié levé. Ce sont des extraits du livre Métadona que je vais lire. Tout droit sorti de la nuit, entre elle et le jour, un seul fil tendu fait venir l'araignée ou alors l'acrobate qui remue à quelques pieds du sol. C'est une marche silencieuse, il ne parle à personne, sauf à certains noctambules, il susurre, ni endormi, ni vraiment réveillé. Il va comme un piéton sans but, il cherche les moments d'inertie pour mieux repartir. Sur ce fil horizontal, pas un zigzag, encore moins un réseau. Une ligne droite qui vibre un peu, mais plus sûre que le sol, un chemin de ronde, le monde par-dessous, ordonné selon sa mesure. Il danse, imite la rotation de la terre. C'est un strict solo aimanté, une ghost dance qui garde enfoui le secret de son geste muet et aveugle, car il voit sans les yeux tourner au-dedans, tant grâce aux mains et aux pieds. Pied avec pied s'en est venu, pied avec pied s'en va, les premiers maîtres de philosophie et d'équilibre. Il joue, dans son théâtre illimité, au grand air, le funambule avale son socle, avant d'en produire un autre, une pelote très étirée. Le fait pendait là, le pendu, pendait comme un fruit sur l'arbre, un corps noir, jaune ou vert, qui se balance doucement dans l'air, d'une manière, parfois autrement. Les arbres du sud portent un fruit étrange, une drôle de scène pastorale sur l'arbre, où au bout d'un fil, un seul fait sortir l'araignée. De même, sur une ligne électrique, elle va, pendue haut et court, mais bel et bien survoltée. Les yeux révulsés, la bouche cousue, il faut voir la scène au mieux, dehors, accroché à un olivier, dedans, sous un pauvre plafond, un beau théâtre surnaturel, juste avant qu'elle ne tombe du côté où elle penche, un short drop, un double looping ou non, épuisé par sa course folle le long d'un fil élastique ou d'un mur incurvé. Un acrobate tout droit sorti de la nuit, sa silhouette si délicate en expansion, pouvant se confondre avec un fruit ou même une araignée, elle ne figure pas vraiment. Pourtant elle est là, entière, bras plus jambes confondus, le long d'un mur qui montre la plaine et les arbres, la mer extérieure. C'est un genre unique de mouvement périodique, mais capable de durer indéfiniment, quand l'été revient, si rien ne l'arrête, il se répète, même forme, même affaire. Celle d'une rencontre qui n'a pas eu lieu, son corps devient un outil atmosphérique, sa renommée comme le tonnerre, et ses pas, comme le bruit que font les sorciers volants. Un outil, pourquoi pas, une machine pleine d'astuces, elle ne bouge ni là où elle est, ni là où elle ne se trouve pas. Dans un entre-deux, un épisode inactuel fait pour éviter le pire, son secret de polichinelle, qui la rend aussi active, presque un rêve, une anomalie sauvage et par roulement interdite, une reprise adaptée au son et à son glissement progressif vers les aigus. Le 29 juin de chaque année, le passé revient, si rien ne l'arrête, il devient une habitude. Avec le masque de l'araignée, plus celui de la stupeur, un va-et-vient, une rengaine sur tous les tons, une cérémonie ouverte qui dure le temps d'une journée amnésique et costumée, une très belle passion cinétique. Le 29 juin, le passé revient, un vague souvenir, un sentiment curieux de déjà-vu qui met le monde de travers et en mouvement. C'est le tremblement de l'air ou les reflets de l'eau dus à la chaleur, une simple trace photographique, mais une trace quand même, celle d'un satané mirage, d'un fait inaccompli. On en voit autant dans les champs l'été que dans le marc de café. Un petit animal mélodique, par exemple, quand il mord puis remord chaque année, même chant, même suite somatique. Il s'agit d'arrêter ce cirque invariable qui joue et rejoue un très mauvais passé, un brin romancé. Le remords suit, comme autant de furie aux aguets, un secret si mal gardé. Ni un crime, ni même un méfait, juste une morsure suivie d'un ennui aussi profond. De n'avoir pas été ailleurs, très loin, de toute cette histoire, ou alors, encore plus près, une histoire curieuse qui se répète jusqu'au bout, entre deux eaux, et de meneurs, l'un prend le masque de l'autre. Une attraction qui déchaîne et retient à tour de rôle. Quand l'homme s'associe à une araignée, c'est une riche expérience pour sentir le vide et perdre l'équilibre. Le vertige donne le ton et la couleur. Il faut l'honorer à sa manière autant que l'air et la poussière, tous aussi doués d'un mouvement continu. Un sacré talent, celui de se confondre le temps d'une valse hébétée avant de retomber sur ses pieds, une chute amortie. Mais un déraillement général. Au son du violon et du tam-tam, sous l'œil atone, de ceux venus là, comme on va dans une foire avec un pitre à la parade et une balançoire automate. Regarder se retourner le monde et flotter juste à portée de la main. Des nuances et des brusqueries. Une technique très au point le 29 juin de chaque année quand le passé revient, sous la forme d'un petit animal ventriloque jalousement gardé. Un intrus, apparu par surprise et qui continue d'apparaître. On ne le commande qu'en lui obéissant. Il aime beaucoup la musique et semer le désordre. Autant que d'un bois, on en sort toujours un peu égaré. C'est un joli camouflage saisonnier brun, la robe mouchetée de noir ou colorée autrement d'elle. Le fil à tisser sort tout droit de la soirée dite de quoi faire son nid. Ou alors, une simple bande, le ruban passé qu'on agite en dansant, l'œil fixe et la bouche cousue. Il donne le ton plus l'allure. Un solide mélange, les sens sont bien migrés. Kandinsky a vu des couleurs en écoutant un opéra de Wagner, elle voit rouge de colère, de honte, qui devient vert quand on le regarde trop, le paysage, tel qu'il n'est pas, jaune de Naples ou moutarde qui lui monte au nez, un dépit antique que la musique doit rendre. Pour dissoudre la bile noire, comme un oiseau de nuit, elle se tient dans l'air contre et avec l'agitation du vent. Elle sent, grâce aux pieds, et revoit grâce aux mains, un tissu entre les doigts, le petit animal en demi-teinte, brun, la robe mouchetée ou colorée autrement, les jardins luxuriants, la mer vermillon, le ciel bleu azur et un homme changé en araignée des champs, ses rêves sont en couleur, ses jours noirs et blancs. Un modeste contraste où vibrent tous les gris, un fantôme presque immobile, sans image, ni résonance. Les pierres se refont, la terre sèche. L'étrange paysage vu par un oiseau de nuit, par une araignée des champs, sans le moindre contour de la poussière cosmique, un bon sfumato. Rien de mieux que la chanson grise, celle qui rend imprécis, célèbre les muets et les absents. Privé d'ombre, mais baigné de lumière, blanc sur blanc, le soleil toujours nouveau qui sonne comme un silence. Le 29 juin de chaque année, quand il faut s'y remettre en musique et en mouvement pour dissoudre la bile et l'amertume, une pure passion cinéphile, s'approcher au plus près, à travers la fenêtre ou la porte, du jeu mélancolique d'un duo de choc. L'une danse avec le ruban sa momie délavée, l'autre fait du fil à tisser, vert, jaune, rouge, gris, tremblé, histoire de réveiller les morts et de donner un spectacle digne des meilleurs voyeurs. Ce qu'il regarde, il l'invente. Immobile, excepté la tête électrisée, l'épisode chorégraphique commence au ras du sol, recto, verso, avant de continuer sur pied, des pieds de danseurs en rangée. Ta façon de marcher, nani, nana, ta façon de marcher ressemble à une danse ou à un affolement. Dans un périmètre très réduit, 5 fois par seconde, il marque la mesure pour écraser le motif. Une bonne fois. Ni un serpent, ni un moustique, mais une simple araignée, son modèle préféré, même rite, même gymnastique désarticulée. Certains dansent avec leur momie. Elle est en duo avec un petit animal souterrain à qui elle rend grâce chaque année, elle adhère bien à son hôte, vibre, au mot, en écho et en symétrie, le temps arrêté, l'espace redécoupé. Une fable piquante. Rien n'a jamais eu lieu hormis ce balai effréné, cette attraction illimitée, une affaire unique d'égarement qui fait trembler la terre. C'est l'heure d'été, et c'est le baiser fabuleux de l'araignée, ce double mutique. Il soulève du sol, puis y ramène, comme si de rien n'était. Être de verre, de beurre, changer en pitre ou être devenu roi par une passe magnétique, un moment d'absence, s'élever dans l'air et y rester la tête de travers. Quand il vous tient bien, à faible distance et même de loin en loin. Une occasion de prendre une autre forme, on vous donne un visage, vous en choisissez un nouveau, sans parure, ni souriante, ni fardée. Elle parle d'une voix bizarre qui n'est pas la sienne, blanche et ventriloque. Elle vient de derrière le rideau ou du fond des champs, du grec ou de l'hébreu ancien. Elle a le don soudain des langues comme celui de l'hospitalité. Elle cohabite avec un petit génie, un maître de ballet sourd et à moitié aveugle qui donne la mesure et la méthode. Pour sortir de ce traquenard, il faut une cérémonie spéciale. Les animateurs sont le coiffeur au violon, l'agriculteur au tambourin, le fossoyeur à l'accordéon et le monde au balcon. Par un pied, il s'en est venu, par là, il doit partir. Roi, rat, jusqu'à l'année prochaine, quand il vous tient. En deux accords et quatre temps, c'est devenu un tube local, pan, vert, rouge ou mauresque pour mettre en mouvement le corps et les esprits fatigués. Les vrais sourds ne dansent pas, mais les durs d'oreilles, si. Au son du violon, le barbier, de l'accordéon, le fossoyeur, du tambourin, le paysan, une belle équipe thérapeutique en deux accords et quatre temps, plus un crescendo renversant. Elle a besoin de six crins et les bords, ou alors d'une bonne musique, encore faut-il reconnaître celle qui le mérite. Par le venin mélodieux, en plusieurs tons, celle qui regarde son démon le tue doucement avec sa chanson. Et ses pas bien comptés, à mesure que le rythme grandit, seulement au moindre écart, il faut tout reprendre, la cadence et la contredanse, reprendre un variable cours des choses. Avant de la mettre en sourdine jusqu'à l'été d'après, cette bande-son devenue un fameux tube local, un certain air qui déjoue les tensions, et la voix off d'un très petit animal dont le timbre porte à travers les airs. À l'écart du soleil, mais non des curieux. Une séance a bien lieu. Tout commence au sol, un sol froid comme de la pierre. La danseuse ne danse pas ou danse électrique. Quelques jours d'affilée, les musiciens ne jouent pas ou jouent assourdissant, de quoi réveiller un mort. Les curieux ne voient rien, rien, sous leurs yeux seulement une histoire à dormir debout. Une araignée a mordu le matin au seau du lit, en taillant la vigne, près de la fenêtre, vers midi. Et son venin inactif a changé le cours des choses, d'abord de fatigue accablée, un méchant spleen, la face noire, le regard d'une statue, ensuite une drôle de pirouette, une suite enragée, plusieurs rythmes et plusieurs mouvements. Ils imitent les remous de la mer et les allures de son double retranché. Au fond de sa prison, Pélisson s'est entiché d'une araignée, elle de même, une tarentule au grand air, un secret très mal gardé, au point d'en devenir une, tous les ans, au même moment, dans ces déserts, dans ce soleil méconnaissable, elle héberge une petite bête des champs. C'est la chronique d'un amour fou et déchirant. Par un pied, elle s'en est venue, par là, elle devra partir. Droite, ou la tête en bas, elle devra partir, comme de sa vieille enveloppe. Tout se transforme, identique ou presque, mais la forme et la matière se perdent à l'œil nu. Une grenouille devient une feuille, un homme une vipère, eux, se confondent un moment, celui d'une grande fête au village. On ne se reconnaît plus, on s'invente un nouveau visage. Pas de bouche, pas de langue, pas de dents. Une séance a bien eu lieu à l'écart du soleil devant chaque curieux, un 29 juin à Galatina ou ailleurs. Il a fallu répondre aux ordres d'une petite bête noire, sourde, ventriloque, et experte en broderie pour oublier un certain malheur du temps, sur son dos se refaire une santé, une fable hallucinée venue du fond des âges, de la préhistoire ou peut-être du champ attenant, là où chaque année, moitié perdue du sol, on récolte ce qu'on a follement semé et on voit on ne sait quoi de submergé. Eu quero voar, esconder, 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 esconder,
Cole Swenson vit à Providence, sur la côte est des États-Unis, où elle enseigne le creative writing à Brown University. Elle est la traductrice de Pascal Monnier et Suzanne Doppelt en anglais, et a créé la maison d'édition La Presse Poetry, qui publie de la poésie française contemporaine en anglais. Elle est l'autrice d'une vingtaine de recueils de poésie, dont au moins 5 ont été traduits en français, parmi lesquels Le Nôtre, Newman, L'âge du verre et le dernier Poèmes à pied, paru en mai 2021 aux éditions José Corti, dans la traduction de Maitreyi et Nicolas Pesquet. Son œuvre poétique, depuis les premiers recueils publiés dans les années 80, ne cesse de dialoguer avec les arts visuels. Elle s'intéresse tout particulièrement au land art et ne cesse de réinterroger et mettre en cause par son écriture le binarisme entre êtres humains et animaux, nature et culture. Dans son dernier livre paru ce printemps aux États-Unis, Art in Time, elle développe une libre réflexion sur le paysage qui s'inspire de l'œuvre d'artistes visuels, parmi lesquels de nombreuses femmes, Rosa Bonheur, Agnès Varda, Zineb Sedira notamment. Elle a choisi d'en lire un extrait ce soir, traduit en français par le collectif de traduction Connexion Limitée, aux côtés de quelques fragments inédits.
Bonjour ou bonsoir, et merci de Lenaï, Cariou et toute l'équipe de ce magnifique festival. J'aimerais tellement être là en personne, mais j'espère être là à bientôt. Bon, je suis ravie de lire avec des femmes tellement magnifiques que Liliane et Anne et Suzanne, c'est un vrai honneur. Je vais lire deux choses différentes ce soir. Je vais commencer avec des morceaux très courts, micro-essais-poèmes, et puis je vais le suivre avec un autre. Je vais commencer avec quelque chose qui s'appelle thumb ou pouce. Thumb. I look at my thumb as its own animal. I look at my thumb as entirely its own. I think of it grammatically, the sovereignty of a noun, unsounded, unspoken. It has the monolithic power of everything that chooses not to speak, the immense power of the snootily chosen quiet. This is what emanates from my thumb, dumb, held out. Suddenly, as large as an entire hand, it stands up straight like a stop sign upon everything screeching to a halt throughout the entire neighborhood. And having thus assembled its audience, all at rapt attention, it says nothing. The silence of a thumb silences everything for miles around. But let me write that again. I look at my thumb as its own animal. I look at my thumb as entirely its own. I look at it fondly and see it populating great prairies, and thus how gracefully it becomes they, allowing they to overtake it, and to do so without displacing anything else, not any of the other species, and there are so many, mostly small mammals, but even the large ones, even the huge ones, just imagine them, all of them, they too have their own thumbs and become them. Wildebeest. Picture the wildebeest in bewilderment, her placid countenance suggesting bewilderment not as confusion or disorientation, but as complete fusion with the unplanned aspects of the environment, those aspects out of one's reach and control, the happenstance of it all, and that in its branchiness, something suggesting, under its breath, be wilder than, be wildering. Thinking of wilderness as chaos given space enough to relax, a chaos you can calmly wander through, unfindably and thus unlosably, thus re-anchoring a sense of place. Much concern has been raised about the virtual worlds unearthing our sense of place. But place is always unprecedented, always has been, as it's not a physical location, but the occupation of an intersection of the four dimensions. It can't occur unless you're there, and you always are. Hartebeest. And then there's the hartebeest. It comes from farther wandering, and from metaphors taking over what used to be perfectly good sense. its sharp little hooves. Or not so little as all that. In fact, in silhouette, distinctly majestic against an horizon, making it dawn. It has the power to make dawn, which is to say, to make something beyond metaphor, impervious to metaphor, out of reach of all analogy. But that could happen to a lot of animals, maybe even all. What's strange to find in a hart beast is an animal whose every internal organ is a heart. And yet it works. All that thumping sets up a syncopation that dissolves the animal into a productive hum, like those bridges that, walked across too rhythmically, collapse. Though this works the other way around. This hum sets up a rhythm that keeps waking the animal up and up and up, and everything around it, increasingly, a heartbeat heard so largely that every living thing stops to listen, thinking, I've heard that somewhere before, and I remember it fondly. Giraffe. The running giraffe keeps coming back to me as an incidence of syntax, something about the headlong forward motion counterbalanced by the vertical ballast, or even constantly challenged or even threatened by the tendency ascendant, even heraldic. But syntax exerts its horizontal, thus propelling the giraffe headlong and determined to convey all those continents mapped out across its hide, its own oddly linear globe, to the point of hoofing in every comma, though there it does draw the line, submitting only to those that are absolutely necessary. Dust, the importance of which cannot be discounted, seems light, seems, in fact, the principle of lightness itself, which it is, of course, but it's also that sort of lightness that settles. It's a precipitate, and that's where it intersects with language. Language as those particles just heavy enough, those that, out of the entire atmosphere, can't quite remain aloft, and so they come to cover everything and slightly, though not entirely, obscure it. Wind. Again arisen, or again here comes the wind. It's so noisy, and I'm thinking that all that sound, all that we're hearing, is resistance. Wind without anything opposing it would make no sound at all. And that thought leads on to the further thought that resistance is perhaps, if we could add it all up, the largest producer of sound in the world, because we'd have to add in speech as well, as it, too, simply boils down to a breeze encountering resistance, that of teeth and tongue, the breeze of breath leaving, but not so easily. There are gatekeepers called words that extract the best of it and for their own benefit. Et maintenant je vais changer un peu et lire un extrait d'un livre qui vient de sortir. Le titre c'est Art in Time. Ça veut dire art à temps et art dans le temps. En anglais, les deux sont exprimés avec la même phrase. Et celui-ci, c'est un extrait d'un poème sur Zineb Sidira, une vidéaste contemporaine. Et après que je lire cet extrait, Lenaï Cariou va lire sa traduction de le même morceau. Bon. Zineb Sidira, Lighthouse in a Sea of Time. The piece opens at night with an oddly bright amber bird flying by against a background of dark hills. This first part of the work consists of four screens on which moving images of short duration are intermittently projected. The bird appears on the screen in the lower right. The four screens often show echoes, often enlarged details of other screens, just slightly offset in time and scale. Another bird passes and then is enlarged on the screen to the left, at which point we see that, in fact, it's actually a patch of light rippling across the facing cliff at regular intervals. Images flow and juxtapose across the screens. Sometimes all are occupied at once, sometimes only one or two or three. And then it's dawn, very calm, with clouds building up out to sea. A chain link fence runs down to the shore with a bird perched on almost every pole. Cap Siegley Lighthouse, built in 1906 along a relatively uninhabited stretch of coastline some 100 miles from Algiers. Its light shines 25 miles out to sea. From that high up, you can see far down the coast and the endless waves, the rhythm of days. Another dawn, someone flicks a curtain open across a brilliant window. Another window, this one spotted with rain, is echoed on the next screen by rain now running down in streams. And then evening, seen through the rotating panes of the lamp, its shadow cast and seeking a place to land. And then the scale shrinks, and we're looking at a pair of binoculars with French windows reflected in one of the lenses. A white boat passes far offshore. In fact, it's the only time we see a vessel out at sea, which seems ironic, as of course, boats and ships are the only reasons that a lighthouse exists. Merci beaucoup, et maintenant, c'est l'énigme. Au revoir.
Zineb Sedira, Phare sur la mer du temps. L'œuvre débute la nuit, avec un oiseau couleur ambre, étrangement lumineux, qui vole devant un arrière-fond de collines sombres. Cette première partie de l'œuvre comporte quatre écrans sur lesquels des images animées de courte durée sont projetées de manière intermittente. L'oiseau apparaît sur l'écran en bas à droite. Les quatre écrans montrent souvent des échos, souvent des détails agrandis d'autres écrans, à peine décalés en termes de temps et d'échelle. Un autre oiseau passe avant d'être agrandi sur l'écran de gauche. C'est alors que l'on voit qu'il s'agit, en fait, d'un rectangle de lumière qui ondule sur la falaise d'en face à intervalles réguliers. Les images coulent et se juxtaposent d'un écran à l'autre. Parfois, tous sont occupés à la fois, parfois un seul, ou deux, ou trois. Puis, c'est l'aurore, très calme, avec des nuages qui se forment en direction de la mer. Une clôture grillagée descend jusqu'au rivage, avec un oiseau perché sur presque chaque piquet. Le phare de Cap Siegley, construit en 1906 le long d'une portion du littoral relativement inhabité, à près de 100 miles d'Alger. Sa lumière brille à 25 miles de distance sur la mer. De cette hauteur, on peut voir la côte au loin et les vagues infinies, le rythme des jours. L'aurore, à nouveau. Quelqu'un ouvre le rideau d'une fenêtre brillante. Une fenêtre, à nouveau, recouverte de gouttes de pluie, celle-là, est prolongée sur l'écran suivant par la pluie, qui maintenant s'écoule en ruisseau. Puis, une image du soir, entreaperçue à travers les vitres tournantes de la lampe, son ombre projetée à la recherche d'un endroit pour atterrir. Puis, l'échelle se rétrécit, on voit une paire de jumelles, des portes-fenêtres se reflètent sur l'un des verres. Un bateau blanc passe au loin sur la mer. En fait, c'est le seul moment où l'on voit un vaisseau en mer, ce qui semble ironique, étant donné que les bateaux et les navires sont, bien sûr, les seules raisons pour lesquelles existent les phares.
Sangue corre nos teus rios. O suor seca no teu corpo. Meu canto é feito pra ti.
Anne Portugal est née en 1949. Elle vit et travaille à Paris. Elle a coécrit Marquise vos beaux yeux avec Michel Grangot, José Lapeyrère et Liliane Giraudon. Elle traduit également de la poésie anglophone en français et a notamment traduit Stacy Doris avec Caroline Dubois et Caroline Bergvall avec Abigail Lang et Vincent Broca. Elle a publié une vingtaine de recueils depuis 1980, principalement aux éditions POL, parmi lesquels De quoi faire un mur en 1987, Le plus simple appareil en 92, Définitif Bob en 2002, La formule flirt en 2010 et Comment nous voilà moins épais en 2017. Anne Portugal s'intéresse à la syntaxe, ou plus précisément à la fantaxe, en cherchant à produire des effets de déliaison, de sauts, d'accélérations et de ralentissements. Elle s'amuse à déconstruire les lieux communs de la poésie, qu'elle associe au flirt, et définit comme « un art de ne pas y toucher ». Anne Portugal a choisi de lire ce soir un texte écrit en collaboration avec Vincent Broca, lui-même poète et chercheur, traducteur en français des écrivaines Caroline Bergvall, Tracy Morris, Anne Waldman et Talia Field, et dont le dernier livre, « Photocall », projet d'attendrissement, paraît ces jours-ci aux éditions des Petits Matins.
Dès l'annonce du colloque, je n'ai pas imaginé de lire mes propres textes, déjà parus, et dont l'écriture ne me paraissait pas en droite ligne d'un positionnement féministe, du moins pas conscient. Pas davantage que ne se réclamant à leur époque d'une identité de poète femme. Dans la mesure où mes textes interrogent davantage le « nous » de l'amitié et de la rencontre dans la syntaxe, plutôt que le « il » ou « elle » du genre. Mais m'a plutôt tenté l'écriture d'un texte spécifiquement pensé pour l'occasion, précisément pour m'engager à réfléchir à ces questions aujourd'hui d'importance et pour mieux explorer les contours des notions que ne manquera pas de soulever l'événement et qui évidemment me passionne. J'ai donc préféré partager ce travail d'écriture avec Vincent Broca et sa poésie, puisque nous collaborons depuis longtemps à des travaux de traduction et aussi à des dispositifs textuels interrogeant ces principes de partition, de mélange ou d'annulation des genres et de leur incidence en littérature. Dans l'esprit donc de la formule flirt, titre de l'un de mes livres, nous avons conçu un texte commun dont l'intitulé est Théorème du genre, théorème, qui voudrait feuilleter et délier la sémantique du mot dans toute son extension et contribuer ainsi à alimenter et creuser les débats de ces trois jours de colloque. Théorème du genre, théorème.
Le théorème dit « Nous nous aimons tous les deux, nous ne pouvons pas nous aimer toute la vie, nous ne pouvons pas vivre ensemble ». Donc, nous allons faire l'amour maintenant, et alors, nous nous aimerons toute la vie.
Démonstration, nous aimer. 1. Madame de M aimait Félix de V. Belle histoire d'amour, genre.
2. Madame de M aimait Félix de V. Une histoire lamentable. Lamentable parce que, résultat, elle est morte.
Ça a l'air assez simple.
Simple, simple, mais rien n'est simple.
Mes rapports avec les gens sont la simplicité même.
Et la nature devrait se comporter comme tu penses que la nature doit être.
Oh, les jolies fleurs blanches.
Oh, une salade.
Oh, de l'oseille.
Oh, des dindons.
Oh, les jolis moutons.
Ne nomme pas ce qui n'a pas besoin d'être nommé pour être.
Fais frotter l'abstraction avec des bouts de réel.
La grammaire fait faire à la réalité des choses qui n'ont jamais eu lieu. Cette version-là sera la réalité.
Des gens cherchent.
Au centre, repérables comme des fleurs, des soleils, ils rigolent avec leurs boucles.
Ce serait une sorte de liminaire avant même qu'on commence ?
On peut être en situation de rencontre. On se rencontre, on ne s'est jamais rencontré. On peut faire des gestes. Mais pas les gestes de la rencontre.
Évidemment, c'est la connivence.
Tous nos rapports ne sont pas faux.
Est-ce qu'on aime les faux amis ?
Le faux n'intéresse personne.
Faux illusion, faux marbre, regarde, c'est moi.
Ton petit chant par-dessus, ça fait à la langue quelque chose que ne lui fait pas la poésie. Chanson.
Je veux pas vivre comme une feuille, je veux pas philosopher avec les loups.
On peut pas se raconter des histoires.
Je veux pas le rôle des champignons, je veux pas partir en ramification.
On peut pas se raconter des histoires.
Je veux la question microbienne, je veux bien changer de forme.
On peut pas se raconter des histoires.
Je veux un rang zoologique informel, je veux mon unité matérielle indépendante.
On peut pas se raconter des histoires.
Je te dis le dernier truc, c'est format. La forme, le dernier rang en mycologie. Sous-théorème du genre.
Genre, espèce.
La personne appartient au genre, et c'est pour ça qu'on l'aime. On aime une personne si on considère qu'elle appartient au genre humain. Et pourtant, elle est unique. Elle est exceptionnelle, ah oui, c'est vrai. Je suis exceptionnelle, nous sommes exceptionnels. Vos empreintes digitales, elles sont uniques au monde? Vous saviez ça?
Histoire. Rentrer dans un genre ou appartenir. Le père de Linné est un Suédois. Sa famille, comme à l'époque, n'avait pas de patronyme. Le père dut choisir un nom. Il choisit le tilleul, Linn. Variante aujourd'hui obsolète de Lind, tilleul en suédois. Et Linné devient Linné. Alors, le fils va nommer les plantes.
Sous-règne, rameau, infra-règne, super embranchement.
C'est Buffon, pas Claude Bernard, qui plante les cèdres à Clamart.
Genre, syntaxe.
Dans le vide de la phrase, le passage. Il y a un espace, mais qui n'est pas rien. Fallait trouver une solution, un coup syntaxique, un cliquet, un couteau suisse, pour subordonner tous les segments. Genre, ça tient lieu de...
Ça porte secours, c'est succursale.
Du latin succurere, littéralement courir sous, d'où affronter et courir vers, d'où porter secours.
Il a fait genre qu'il y arrivait alors qu'il n'y arrivait pas. Comme à la descente d'un bateau, t'arrives à la rive et alors faut quand même qu'on te mette la passerelle.
Après tu vois genre mon copain il va au boulot à vélo. Genre, le changement à Barbès, quand tu as les valises, c'est trop chiant.
Ça commence à être flou, genre, je peux pas lire sans. Genre, ce qui est paracétamol, t'as le droit ou pas?
Je me souviens de genre, il y en avait qui faisaient de la luge à Montmartre. Après, tu vois, genre, je connais un mec, genre, il est obligé de partir, genre, 2 heures avant.
Un coup, c'est un taxi que, oui, mais qui doute.
Je sais pas, genre... Genre,
t'es sur le pont en face du château Saint-Ange, tu te dis, j'espère qu'ils font la même chose de l'autre côté.
Exercice.
Remplacer, par exemple, par genre. Un monsieur pousse la porte d'une salle de bain et découvre, par exemple, une femme absolument nue.
Un monsieur pousse la porte d'une salle de bain et découvre, genre, une femme absolument nue.
Ce qui est tout le contraire. Par exemple, avant de venir ici...
Ce qui est tout le contraire, genre, avant de venir ici...
Tout à fait exceptionnel, par exemple, vos empreintes digitales. Par exemple, vous, là.
Remplacer, disons, par genre. C'est toujours agréable de se réveiller en lisant des choses, disons, jolies.
C'est toujours agréable de se réveiller en lisant des choses, genre, jolies.
Je me suis aperçu qu'il fallait que je vienne ici tout de suite, disons, moi-même.
Je me suis aperçu qu'il fallait que je vienne ici tout de suite, genre, moi-même.
C'est une histoire, disons, lamentable. Maintenant, nous restons ensemble, disons quelques heures.
Remplacer, ah oui, c'est vrai, par genre. Vous dites je suis exceptionnel, ah oui, c'est vrai, je suis exceptionnel.
Vous dites je suis exceptionnel, genre, je suis exceptionnel.
Et il lui a dit ah oui, c'est vrai, les gens sont formidables.
Remplacer façon... Par genre. Nous sommes tous les deux uniques, façon unique et irremplaçable.
Nous sommes tous les deux uniques, genre unique et irremplaçable.
Je vous propose un contrat, façon vrai contrat.
Remplacer pouf par genre et pouf, il est mort. Chanson.
Je veux pas vivre comme une feuille, je veux pas philosopher avec les loups.
On peut pas se raconter des histoires.
Je veux pas le rôle des champignons, je veux pas partir en ramification.
On peut pas se raconter des histoires.
Je veux la question microbienne, je veux bien changer de forme.
On peut pas se raconter des histoires.
Je veux un rang zoologique informel, je veux mon unité matérielle indépendante.
On peut pas se raconter des histoires.
Je te dis le truc, c'est forme à la forme. Le dernier rang en mycologie.
Genre qui n'était pas mon genre.
Je comprends que vous restez silencieux.
Parce que c'est entendu, vous n'êtes pas du tout mon genre.
Mais je voudrais bien que vous me regardiez.
Il faut bien que nos deux genres se rencontrent.
Que vous me regardiez, moi.
Qui, bien entendu, ne suis pas votre genre.
Vous m'avez écrit hier.
C'est bien de votre genre.
Et la réponse, c'est moi.
C'est d'un tout autre genre.
Je viens là, près de vous, maintenant.
Ce n'est pas mon genre de venir ici, mais puisque précisément ce n'est pas mon genre, je viens jusqu'à vous dans cette chambre. À vrai dire, son genre, même plus tard, elle ne l'avait jamais été.
Nous restons ensemble.
Comme il sied à nos deux genres.
Quelques heures.
C'est la loi du genre.
Et ensuite, quoi qu'il arrive, nous ne nous revoyons plus jamais.
Car pas plus que vous ne l'êtes pour moi, je ne suis votre genre. Faire genre, faire plus que genre.
Avec Delphine Seyrig, un des principes de la séduction, c'est de faire entendre sa respiration. Elle a l'air de faire genre, mais elle n'a pas besoin de le faire, elle est déjà genre. Et tous les autres doivent faire genre. Elles, ils font genre, elles, ils ne sont pas genre. Le principe du genre, c'est que on fait toujours genre, tout le monde fait genre. Elle est plus que genre. Genre, moins.
Si vous êtes un élément non repérable d'un grand ensemble et que le grand ensemble vous fait défaut, que ressentez-vous? Quel est votre état? Comment vous placez-vous? Votre geste, c'est quoi? Du moins un? Étant donné un élément non repérable d'un grand ensemble et qu'à cet élément le grand ensemble fasse défaut, le moins devient plus. Du moins deux. Étant donné un élément non repérable d'un grand ensemble et qu'à cet élément le grand ensemble fasse défaut, le moins devient plus et vous vous sentez mieux. Du moins trois. Étant donné un élément non repérable d'un grand ensemble et qu'à cet élément le grand ensemble fasse défaut, le moins devient plus, vous devenez sujet. Du moins 4, étant donné un élément non repérable d'un grand ensemble et qu'à cet élément le grand ensemble fasse défaut, de subordonné, vous vous imposez.
Née en 1946, Liliane Giraudon vit à Marseille. Elle est dessinatrice, revuiste et poète. En tant que revuiste, elle a cofondé la revue Banana Split et la revue IF avec Jean-Charles Despaul, Henri Deluis et Jean-Jacques Vitton. Elle a également contribué à la revue Action Poétique. Son travail d'écriture, qui oscille sans cesse entre prose et poésie, explore les frontières des genres, tantôt théâtre, cinéma, radio, ou encore ce qu'elle nomme l'écrire dessiné. Ni littérature de combat, ni littérature de poubelle, comme elle les nomme elle-même, ses livres, publiés pour l'essentiel aux éditions POL, dresse un spectre accidenté où se côtoient des passages en prose, d'autres en vers, et des poèmes graphiques qui tissent sur la page une œuvre aussi riche que complexe. Depuis 1978, elle a publié une trentaine de recueils, parmi lesquels « La poétesse » en 2009, qui s'ouvre sur la citation d'Hélène Bessette « Tout le monde n'est pas poète ». Au fil des recueils, « Parking des filles », « Les pénétrables », « Madame himself », etc., elle ne cesse de s'interroger sur ce qu'elle nomme « le sexe des livres ». En 1994, elle dirige, avec Henri Deluy, une anthologie de poésie contemporaine de femmes. Poésie en France, depuis 1960, 29 femmes. Elle a collaboré et collabore avec de nombreuses femmes poètes et artistes tout au long de sa carrière poétique. On trouve très régulièrement dans ses textes des références à d'autres femmes écrivaines et artistes. Mina Loy, Huguette Champroux, Hélène Bessette, Sophie Taeuber, Marguerite de Navarre, Aux Xuan Huang, Marie Beach Pellieu, Louise Bourgeois, Joséphine Baker, notamment. Le texte que vous allez entendre a été enregistré à l'occasion de la soirée « Lettres à une jeune poétesse » organisée par les Parleuses en septembre 2020. Liliane Giraudon le dédie à toutes les petites poétesses à venir.
Lettres, chère jeune poète.
Poétesse aspirante.
Invisible.
Poétesse, pas loin de poétasse.
Tu trônes comme une reine, tu te prélasses.
Tu sais déjà que je ne peux pas écrire une lettre.
Lettre. Que cette lettre, je te la dois parce que...
Tu me fais écrire dans l'urgence cette lettre sur laquelle je chiale.
Écrire n'appartiendra jamais à personne.
Lettre.
Lettre à une jeune poétesse par Liliane Giraudon.
Lacoste, le 25 août. Chère Sophie, pardonnez-moi de n'avoir pas répondu à vos deux dernières lettres, mais il semblerait qu'ici, le rapport au temps se dilue comme chaque soir les glaçons dans nos verres. Les nuits pourtant sont encore là et le vent qui traverse les arbres. Aujourd'hui, c'est le matin. On prétend que la vie se compose de matinées. Je vais donc en profiter pour répondre à la série de questions que vous me posez. Je vais le faire en vrac ou sur le tas, parce que le vrac, comme le tas, trouve parfaitement à s'accorder avec l'esprit de la vieille femme que je suis devenue. Commençons par écarter cette histoire de soucis de lectorat. Sans partenaire, les dauphins se branlent contre un corail. Alors, pour ce qui serait de l'absence de partenaire lecteur du poème, on peut toujours trouver des solutions. Et puis rien de pire que le bain tiède de l'empathie qui, en fait, travaille dans notre dos à la mort de l'expérience. Mais quelle expérience ? Nous fonçons vers l'abîme, et ce, grâce à une série de progrès destructifs qui accumulent les catastrophes. Désormais, le traitement criminel de la nature par la civilisation occidentale semble un fait acquis. Voilà où nous en sommes. Où vous, la jeune poétesse, et moi, la désormais vieille, nous nous retrouvons. Confrontées, chacune différemment, à de nouvelles pratiques performatives et technologiques qui, en principe, devraient, dans notre art, nous fournir de nouveaux moyens de résister aux paradigmes dominants. Certains parlent même de remédiation biotechnologique. Les réseaux de publication alternatifs peuvent, comme vous le dites, devenir des outils de résistance. Mais n'oubliez pas entre les mains de qui ils sont. Ça pose quelques problèmes, car nous devons garder à l'esprit que le capitalisme ne tolère que ce qu'il peut utiliser, et quand l'industrie culturelle ne peut plus exploiter l'art, elle en fait passer le goût. Une extension du domaine de la poésie sortie du livre pour alimenter sous de nouvelles formes une industrie, cette fois de consommation, pose pas mal de problèmes. Mais on n'a pas le choix. Se tanker ou bouger. La solitude dévaste, mais la compagnie oppresse. Et Genet, qui s'y connaissait en déplacement, avait pris soin de noter « La Seine est un lieu voisin de la mort ». L'effet retard sur les mutations du genre poésie, on n'a pas encore fini de les mesurer. Mais après tout, dans Crime et Châtiment, il n'y avait aucun détective pour mener l'enquête. Et vu le sofa sur lequel la poésie avait déposé son cul, elle ne pouvait qu'être assassinée. La haine de la poésie dont vous me parlez, elle a fait partie du dispositif poétique des poètes. Il y a longtemps qu'elle reposait dans leur boîte à outils. Mais après l'avoir déclarée inadmissible, intolérable, pourquoi ne pas tout simplement la considérer comme intenable et, pour cette raison précise, s'y tenir ou tenter de le faire? Il faudra du temps pour produire une seule observation simple et véritable sur le fait qu'en dépit des coups reçus ajoutés à cette horrible haleine fraîche qu'elle continue encore aujourd'hui à dégager chez certains, elle poursuit, quasiment increvable. Peut-être parce qu'elle avance cousue à la mémoire de notre langue. C'est en tout cas ce que longtemps j'ai désiré croire. Voilà pourtant qui devrait éclairer ce qui semble vous avoir perturbé. Lorsque j'ai écrit « Guenon, je singe », c'est bien pourtant ce que je n'ai cessé de faire. Mimer, prélever, démonter, remonter. Dans un corps de guenon, s'aligner sur du singe. Nous y voilà. Inutile d'avoir fait beaucoup d'études littéraires pour s'apercevoir que la poésie française a été l'une des plus misogynes qui soit. La langue n'est pas sexuée. Ces dames sont priées de ne pas mettre leur utérus sur la table. Ça, je l'ai très vite compris. Collective poésie où l'aventure de ma vie consiste à ne pas être un intrus, déclare l'impeccable Dominique Fourcade, dont je vous conseille la lecture. Sauf qu'il se trouve y avoir une considérable différence musicalo-juridique entre intrus et intruse. Un baiser de 8 secondes dégage 80 millions de bactéries. Et derrière tout collectif, souvent sommeille un chef, rarement une cheftaine. Assis, debout ou couché, masculin, féminin ou neutre, aucun corps n'échappe à la surveillance ni à l'histoire qui le précède. Il se trouve que vous, comme moi, appartenons à une catégorie, poétesse, pas loin de poétasse. Il y a ce que le printemps fait aux cerises, l'été aux abricots, l'automne aux champignons. La police des corps, elle, n'a pas de saison. Confrontée à une collective blanchitude, sous la houlette dominante d'un hétérocentrisme, combien de corps manquants sur le bidet poétique? Quand le poème est écrit, le poète est mort. C'est clair. Et la poétesse, celle qui est traversée par l'avortement intellectuel de siècles entiers de femmes artistes et par l'infanticide de centaines d'œuvres de poétesses, avec quoi écrit-elle? Quel corps fantôme? Ça lui fait mal où? Comment échapper à cette non-mémoire, à ce nettoyage par le vide? Tu t'entêtes à tout tenter, vire-langue ou casse-langue, ça fourche. La liquidation des majuscules sera longue. Quelle blessure n'est pas de guerre est venue de la société tout entière. Quelle guerre! Pour beaucoup, il s'agit de survivre au chagrin, au travail, à la maltraitance. Historiquement, la femme scélérate était la sorcière et la putain. J'ai eu le bonheur d'appartenir à une génération qui a pu découvrir des revues dont les titres étaient « Sorcière » ou « Le torchon brûle ». Un autre siècle, d'autres combats. J'ai pu aussi observer que dans le domaine de la collective poésie, on aimait surtout les poétesses suicidées ou enfouies sous un mastaba par de proches gardiens, généralement mâles. Au bout du compte, poésie patriarcale bien verticale, arrosée de manifestes comiquement phalliques. Relisez donc Minaloy. À nous, le fatra, serpent du cœur, sottises marginalesques et poèmes allongés. Considérant un enchaînement de phrases sans sujet, sans doute me faudra-t-il écrire une ode sur quelques-unes d'entre nous, en vieilles décrépites, sorcières sans cheveux. Elles avancent dans leurs robes pleines de crottes, chargées d'espérance. C'est que la gamme ethnique offerte dans les bordels s'est élargie ces dernières années, considérablement aidée par l'impact des thèmes racistes du porno réclamés par tous les clients. Pourquoi ce qui alimente l'économie du sexe ne viendrait pas infléchir l'économie poétique? Mais calmez-vous, je plaisantais. Une femme avertie en vaut deux. Pas si sûr. C'est que vous semblez réclamer d'impossibles conseils. Dans tous les cas, ce que je sais, c'est qu'une poétesse ne doit pas être un poète endommagé. Vous voilà en somme et à votre tour embarqué sur ce vieux rafio. Dans le genre tentative d'essai transformateur de la perte, je pourrais vous demander de ne rien écouter, de n'en faire qu'à votre tête. On est à bord de cette embarcation jamais assez véhémente, jamais assez agressive. Relisez l'implacable Artaud, qui, après avoir bien dit que toute écriture n'est que de la cochonnerie, précisait par ailleurs « Je crois que toute écriture valable est de la poésie ». Et peut-être, après tout, cette pratique intenable a-t-elle quelque chose à voir avec le simple fait de s'opposer? Au siècle dernier, notre vieille amie Nanni Balestrini ne soutenait-il pas « La poésie est une opposition ». Voilà sans doute pourquoi, sans cesse, il faut en faire une autre. Sur cette jolie formule, je vous embrasse, chère Sophie. Prenez soin de vous. La saison qui s'ouvre ne va pas être simple à vivre. En ce qui me concerne, je vais me servir un verre que je boirai à toutes les petites poétesses à venir. Liliane.
C'était le 26 septembre 2020, une proposition des Parleuses à l'initiative de l'association Littérature etc. dans le cadre du festival Extra au Centre Pompidou. À noter, le recueil « Lettres à une jeune poétesse » sera publié aux éditions de l'Arche dans la collection des Écrits pour la parole.
En septembre 2021.
Vous venez d'entendre les poètes Suzanne Dopelt, Cole Swenson, Anne Portugal, accompagnée de Vincent Broca, et Liliane Giraudon. C'était la première soirée de lecture du Festival Poétesse, qui a lieu du 3 au 12 mai 2021 et a été organisée par un collectif de 10 doctorantes, Khadija, Claire, Solène, Elvina, Nesrine, Camille, Mathilde, Jofia, Lucille et Lénaïgue. Merci aux universités Paris 8, Paris 3, Paris 4, à l'ENS et à la Maison de la Poésie pour leur soutien. Merci à Suzanne, Cole, Anne, Vincent et Liliane pour leur lecture, au collectif Connexion Limitée pour les traductions à Simon et Victor de la R22 pour le travail de montage et de diffusion. Nous vous donnons rendez-vous demain soir sur la chaîne YouTube du festival pour la seconde soirée et mercredi pour la soirée de performance à la Maison de la Poésie. Vous entendrez d'autres poètes extraordinaires comme Kiemis, Camille Bloomfield, Mia Brion, Caroline Bergwall, Zebulon Hurst, Anne Waldman et bien d'autres.